Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast, et ce matin en compagnie du biophysicien Christophe Lavelle, commissaire de l'exposition « Je mange tant que je suis », qui a lieu en ce moment au Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris. C'est jusqu'au 1er juin. Exposition qui interroge la relation de l'homme aux aliments et l'évolution des pratiques alimentaires selon les rites, les cultures, les religions, selon les modes et les modèles économiques et politiques également, on le verra. Exposition scientifique, ludique, transdisciplinaire, l'art, l'histoire, la science, l'anthropologie et même la géopolitique s'invitent dans ce grand banquet.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour.
L'exposition « Je mange donc je suis » est très scientifique, c'est bien de préciser, très poétique également, très bien mis en scène dans le sens théâtral même de l'expression, puisque votre exposition se joue en trois actes dans trois salles, avec 450 objets qu'on peut toucher, sentir, mais pas manger d'ailleurs.
Alors qu'on peut toucher pour certains, peut-être, ouais. Mais enfin pas beaucoup quand même. Les objets sont quand même mis à distance, on a quelques pièces un peu précieuses évidemment. Et cette mise en scène, c'est aussi et surtout le travail de ma co-commissaire Marie Merlin, qui donc a assuré le commissariat muséographique, moi n'étant que le commissaire scientifique, c'est-à-dire on se partage vraiment la construction et la co-construction du contenu et de la manière de présenter ce contenu, évidemment.
Mais alors cette mise en scène, c'est effectivement trois salles, trois actes, trois moments.
Trois moments et surtout trois échelles différentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu avoir une espèce de parcours d'échelle, dans le sens que la première salle est consacrée à l'individu, la deuxième aux sociétés, donc au rapport entre les individus. On change d'échelle, on grossit ou on s'éloigne, ça dépend de l'analogie qu'on prend. Et puis la dernière salle, c'est les rapports entre les sociétés à l'échelle de la planète. Donc c'est vraiment les modes de production. Donc on a vraiment ce facteur d'échelle qui est important. Et en même temps aussi, peut-être un fil conducteur historique, puisque la première salle démarre avec la préhistoire. Et puis dans la dernière salle, on termine avec les idées sur le futur.
Tout ça avec le thème comment on a mangé, comment on s'est alimenté et comment on va continuer à le faire.
Oui, parce que c'est une question du quotidien. Ça concerne tout le monde, le fait de manger, ça concerne tous les individus, ça concerne et donc toutes les sociétés et ça concerne la planète au sens large. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu traiter ces différentes échelles, parce que en montrant en même temps que toutes les problématiques soulevées par les différents enjeux de l'alimentation sont imbriquées. C'est-à-dire que quand on veut bien manger aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit bon. Alors bon, mais bon pour se faire plaisir, bon de goût. Il faut que ça soit bon pour la santé, à court terme comme à long terme. C'est qu'il ne faut pas s'intoxiquer, mais en même temps, il ne faut pas que ça déclenche un cancer au bout de 30 ans. Il faut que ça soit, si possible, bon pour... On dit bon pour la planète, mais enfin, c'est bon, on va dire bon pour l'environnement, bon pour l'homme qui est sur la planète, et donc dans des systèmes qui soient durables, si possible, c'est-à-dire bon pour les générations futures aussi. Il faudrait que ça soit bon d'un point de vue éthique. On parle beaucoup du bien-être animal, mais on parle aussi du bien-être des producteurs, et des justes revenus aux différents paysans à travers le monde. Donc on se rend compte que ça fait beaucoup de facteurs, si on veut tenir compte de tout ça, que ça soit sociologiquement, écologiquement, sanitairement, hédoniquement bon, ça fait du boulot. Hein.
Comment se prépare ce genre d'exposition? Comment vous avez imaginé cette exposition « Je mange donc je suis » ?
Alors c'est grosso modo deux, trois ans de travail, ça dépend... C'est-à-dire qu'à un moment donné, une exposition comme ça, il y en a une tous les ans au Musée de l'Homme. C'est-à-dire qu'une exposition qui dure 8-9 mois, une exposition temporaire, on en fait une par an, donc tous les ans on choisit un thème. Un thème plus ou moins d'actualité, plus ou moins général. Avant, il y avait Néandertal. Bon, là, on a choisi l'alimentation, sachant que la dernière fois qu'on avait traité ça au Musée de l'Homme, c'était il y a 25 ans. Donc on s'est dit, le comité éditorial s'est dit, bon, 25 ans, sur un sujet qui intéresse tout le monde, c'est peut-être le moment de le remettre un peu en avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont devenus des sujets d'actualité brûlants. Donc, il y a 25 ans, on avait traité la cuisine, avant tout. C'était les cuisines du monde, dans une démarche assez ethnologique. Là, on a dit, il faut traiter de l'alimentation au sens large. Donc, par défaut et forcément de manière un peu superficielle, mais assumée. À savoir, on voudrait montrer un peu tous les différents enjeux, que ce soit des enjeux, bah, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, que ce soit sanitaire, écologique, et puis en montrant les différentes disciplines qui travaillent sur l'alimentation, en montrant l'approche des préhistoriens, l'approche des physiologistes, l'approche des sociologues. Et donc tout ça fait, on avait rapidement un puzzle, pas vraiment un puzzle, mais on va dire une page blanche avec de quoi faire une dizaine d'expositions. Et puis on se dit, bon ben voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quel sujet on va privilégier, lequel on va laisser tomber, ce qui est toujours un peu frustrant, parce qu'on a toujours, moi j'ai rassemblé un comité scientifique pour travailler avec moi, n'étant pas expert dans tous les sujets évidemment, évidemment des frustrations, ça c'est important, ben oui, mais bon, ça on peut pas en parler. Donc on a fait un gros tri, c'est le principal travail pendant un an, c'était trier et de délaguer au fur et à mesure pour garder un squelette qui fasse une exposition de 650 mètres carrés visitable en 2 heures et que ça parte pas dans tous les sens.
Alors on va déambuler avec vous, vous êtes au studio, mais on a à peu près toutes les illustrations de cette exposition qui a lieu, je le rappelle, jusqu'au 1er juin au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et d'ailleurs le fait que ce soit ce musée-là, on n'est pas surpris d'abord de ce clin d'œil à Descartes, je mange donc je suis, et puis surtout au crâne, il y a beaucoup de crânes qui sont exposés dans ce musée. Vous allez me dire, Christophe Lavelle, que c'est la moindre des choses pour le Muséum d'Histoire Naturelle.
Oui, c'est-à-dire qu'on a effectivement, alors le Muséum d'Histoire Naturelle, la Maison Mère, le Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est des 60 millions de spécimens dans les collections à peu près récoltés depuis un peu plus de 2 siècles. Et dans ces 60 millions, il y a effectivement, je n'ai plus le chiffre exact, mais plusieurs milliers de crânes, 18 000, quelque chose comme ça, dont certains sont un peu particuliers parce qu'ils correspondent à des personnages identifiés. D'autres sont particuliers parce que des crânes d'Australopithèque ou des crânes de Néandertal, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est encore un autre domaine, on va dire. Mais là, on a des crânes beaucoup plus récents et dont effectivement celui de Descartes. Le crâne de René Descartes est exposé dans le parcours permanent du Musée de l'Homme. Et pour cette exposition « Je mange donc je suis », il se trouve qu'on a retrouvé dans nos collections le crâne d'Antonin Carême, qui était un des 300 crânes de la collection du Moutier, qui avait été légué au Musée de l'Homme il y a quelques temps. Et c'est quand même, Antonin Carême reste encore aujourd'hui l'emblème du... D'ailleurs, il était surnommé cuisinier des rois, roi des cuisiniers de son temps, décédé en 1833. Et c'est vraiment lui, peut-être avec Escoffier et quelques autres, qui ont construit ce qu'on appelle la grande cuisine française, et qui ont beaucoup essaimé à travers le monde et fait connaître cette cuisine, enfin tout le côté un peu sophistiqué et très théâtral de cette grande cuisine qui était la parade des grandes cours. D'ailleurs, Carême a été le cuisinier de Talleyrand, lui-même ministre de Napoléon, mais il a aussi œuvré dans pas mal de grandes cours princières en Europe, et il a vraiment fait rayonner cette cuisine. Donc on avait envie de le mettre en avant dans cette exposition pour montrer justement ce rayonnement qu'a eu et que continue d'avoir quand même la cuisine française.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. rêvais que de pas finir ma banane.
L'art de manger une banane par Philippe Catherine sur France Culture dans le réveil culturel consacré à cette exposition qui a lieu en ce moment au Muséum de l'Histoire Naturelle. Je mange donc je suis en compagnie avec le commissaire scientifique de cette exposition, le biophysicien Christophe Lavelle. On voyage dans le temps et dans le monde dans cette exposition, d'un repas dans les cavernes des temps préhistoriques jusqu'à un dîner à l'Élysée, donc tous les temps, d'un thé au Sahara en Algérie à une soupe mexicaine, tous des univers et de la paysannerie à l'industrie de l'agroalimentaire d'aujourd'hui, tous les modèles. Et puis bien sûr, la religion est très présente, hein, du fruit défendu aux aliments en poudre pour les cosmonautes. On a à peu près tout. Comment manger ?
Tout, oui.
Presque tout.
Ouais, le domaine est tellement vaste, comme je disais, il aurait fallu 6000 m² plutôt que 600 pour avoir presque tout, mais c'est vrai que l'alimentation étant un fait universel, partagé par tous à travers le monde et de tout temps, les discours qu'on peut porter dessus sont à peu près infinis. Donc après, il s'agissait justement de montrer cette imbrication, qui est une imbrication aussi bien à l'échelle géographique, historique, mais aussi surtout, vu du point de vue scientifique, disciplinaire. C'est-à-dire que quasiment tous les champs de la connaissance ont quelque chose à dire sur l'alimentation, que je sois psychologue, physiologiste, médecin, chimiste, biologiste, physicien, etc. J'ai toujours quelque chose à dire sur l'alimentation.
Et même sociologue d'ailleurs.
Et sociologue, et ouais, historien, et géographe, et philosophe, et tout, et géologue. On a toujours quelque chose qu'on peut raccrocher à l'alimentation et qui peut éclairer nos manières de s'alimenter.
Alors tout ça, ça commence quand même par le sacré, par le fameux fruit défendu, par l'alimentation autorisée par rapport à une autre qui ne le serait pas.
Oui, mais c'est-à-dire que l'alimentation est un fait social aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au-delà des contraintes physiologiques qui font qu'on a besoin de s'alimenter, c'est-à-dire d'ingérer des calories pour avoir un peu d'énergie, puis quelques micronutriments quand même pour rester en vie le plus longtemps possible. Assez rapidement, dans la construction de l'homme, effectivement, il y a des interactions sociales qui se mettent en jeu et qui ajoutent des contraintes, je dirais artificielles puisque culturelles, à nos manières de table et nos manières de cuisine. Les interdits alimentaires sont effectivement les exemples les plus typiques d'une contrainte totalement artificielle que l'on s'impose pour des raisons idéologiques, éthiques, et philosophiques, et donc religieuses.
Et des fois, c'est juste le goût, hein. C'est très subjectif et assumé.
Parfois, ça peut être le goût, mais le goût, c'est jamais des interdits. Mmh. Le goût, ça va être pour le coup très souvent subjectif et qui peut être un goût qui peut être forgé dans une société donnée parce qu'on va avoir une habitude ou pas pour certains aliments. Mais il s'agit pas du tout d'interdits, c'est vraiment une essence qui est très différente. Le fait que j'ai pas envie de manger de migale, effectivement, vient du fait que j'ai pas grandi au Vietnam, j'ai grandi à Paris, mais rien ne m'interdit de le faire. Après, le rapport aux aliments, les rapports religieux sont des rapports beaucoup plus avec des injonctions qui sont incontournables et qui sont d'ailleurs assez compliquées à justifier, entre guillemets, pour des raisons, à remonter d'un point de vue historique pour les raisons pour lesquelles ces interactions ont émergé. Il y a quelques scénarios, mais c'est pas toujours évident de comprendre finalement pourquoi à un moment donné dans l'histoire les hommes se sont interdits tel ou tel aliment, quoi.
Et puis aussi, il y a la sociologie, celle qui revient sur un thème lui aussi très contemporain, c'est-à-dire le genre. Comment occuper cet espace qui est un espace dédié à l'alimentation, la cuisine, par exemple, suivant notre genre.
Oui, et c'est clair qu'il y a un biais genré qui est partagé par beaucoup de sociétés, mais pas forcément toujours dans le même sens.
Il y a même des aliments genrés pour vous.
Oui, tout à fait. Alors des aliments genrés, c'est un peu quand on regarde la réalité, c'est-à-dire qu'en tout cas en France, hein, les chiffres qu'on avait sortis, il y a beaucoup moins de différences qu'on l'imagine. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit à travers les médias ou les magazines, où effectivement on imagine tout de suite l'homme viandard et puis la femme avec sa salade healthy, et or dans les vrais...
Il est reçu,
parce que dans les vraies habitudes de consommation, effectivement, il y a un petit peu plus de charcuterie consommée chez les hommes, il y a un peu plus d'alcool, mais en fait c'est pas très significatif, et pour le reste on est quand même dans des alimentations qui sont très similaires. Après, les différences, c'est plus dans les constructions sociales, effectivement, de la place de la femme et de l'homme en cuisine pour des raisons purement domestiques. où c'est vrai que ça en reste encore, même aujourd'hui, en 2020, la femme, beaucoup plus que l'homme, qui prépare le repas pour la famille. Et ça, c'est clairement une différence purement sociale. Il n'y a pas de raison biologique là-dedans. Dans les différentes alimentations, on peut aller essayer de chercher des différences métaboliques. Jusqu'à présent, n'ont pas vraiment été trouvées. Mais c'est des domaines, on va dire, des choses différentes. Le fait de préparer le repas et puis de ce qu'on mange, c'est encore deux choses différentes.
Alors, Christophe Lavelle, puisque cette exposition « Je mange, donc je suis » est pluridisciplinaire, mais aussi aborde plusieurs thèmes, puisque vous avez parlé aussi bien de science, de religion, d'agroalimentaire, donc oui. D'économie, de politique. Qu'est-ce qui attire les premiers visiteurs, puisque cette exposition est ouverte depuis quelques jours?
C'est un discours scientifique. On est dans un musée qui dépend d'une institution scientifique. C'est le Musée de l'Homme, un des départements du Muséum national d'histoire naturelle. Donc le discours doit être strictement scientifique. Dans ce cadre-là, on n'est pas là pour donner des injonctions, pour juger des comportements ou pour juger des pratiques. On est là pour dire ce que la science est capable de dire. Donc il n'y a aucun, en tout cas on a essayé de n'avoir aucun parti pris dans notre manière d'exposer les faits. Ça vaut pour le glyphosate, pour les OGM, pour tout ce qu'on peut imaginer. On montre qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences des pratiques qui ont recours à tel ou tel produit ou tel mode de culture, etc. Mais on ne juge pas, on n'est pas du tout là pour ça, on n'est pas une ONG. Après, c'est à chacun, évidemment, en recevant cette connaissance, de se forger une opinion sur ce qu'il estime être bien ou pas bien. Et ça, c'est là-dedans que l'alimentation doit faire débat, et c'est pour ça aussi autour de l'exposition, on a beaucoup de tables rondes, on a beaucoup de conférences qui sont là, pour le coup, pour vraiment avoir des débats. Après, pour la deuxième partie de la question, ce qui vraiment...
Qu'est-ce qui fédère, qu'est-ce qui attire?
Oui, qu'est-ce qui attire, effectivement, il y a toujours des sujets qui font un peu plus fantasmer que d'autres. Par exemple, l'homme préhistorique, ça a toujours fait fantasmer.
Bah oui.
On a envie de savoir qu'est-ce que mangeait Néandertal, qu'est-ce que mangeait Australopithèque, ça, c'est toujours, et puis de voir des restes d'ossements qui ont 100 000 ans, 200 000 ans, voire 1 million d'années, ça fait toujours un peu rêver. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose... L'histoire est vraiment notre histoire la plus profonde, la plus ancienne, attire toujours pas mal d'attention. Et puis c'est ce qui est attendu au Musée de l'Homme aussi, c'est un peu notre cœur de métier, ce genre enfin la préhistoire au sens large. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des choses un peu plus artistiques, justement, mais forcément le crâne de Carême, et puis les œuvres de Carême qu'on a exposées à côté, ça fascine, parce que c'est des grandes pièces montées, c'est des œuvres de pâtisserie extraordinaire, donc il y a toujours quelque chose d'un peu fascinant là-dedans.
Je suppose que le service de vaisselle de l'Élysée...
Pareil, évidemment, c'est un peu des pièces, ouais. Des pièces uniques, évidemment, enfin uniques. Service de vaisselle, il y a 900... chaque pièce est en 900 exemplaires, mais bon, ça reste quelque chose, effectivement, d'un peu exceptionnel. Et puis, effectivement, c'est le côté voyage. Il y a un côté exotique, quand même, qui est un bon fond de commerce, sans faire une analogie trop économique, mais effectivement, on aime regarder ce qui se passe ailleurs, soit à travers les produits, soit à travers les modes de culture, les pratiques. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est toujours des côtés voyage un peu qui titille l'imaginaire et qui donne éventuellement envie d'aller tester sur place.
Alors, puisque vous avez utilisé la formule fond de commerce, Christophe Lavelle, et il y a aussi une place de comment on distribue, comment on commercialise les aliments. Dans cette exposition, je mange, donc je suis. Et la question qu'on se pose à la fin de cette exposition, c'est est-ce qu'on se dirige vers une alimentation universelle, mondialisée ?
Alors, c'est effectivement le dernier espace ressemble à un supermarché parce qu'on voulait aussi être dans le concret. Aujourd'hui, on se projette à la place du consommateur qui est un peu perdu face à l'offre alimentaire ou en tout cas dans les pays, on va dire, développés et dans les milieux urbains où on a accès à tout. Absolument à tout. Donc, tous les produits du monde quasiment sont à notre disposition. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre caddie, en fait? Alors, caddie au sens large, hein, ça peut être notre panier au marché, bien évidemment. Et à partir de là, on tire des ficelles sur tel type de... telle viande, tel poisson, tel légume, tel mode de production. On essaie d'en donner les tenants, les aboutissants de chaque type d'ingrédient pour que le consommateur se transforme en consomme-acteur, à savoir vraiment quelqu'un qui non seulement d'un point de vue passif remplit son caddie, mais aussi d'un point de vue actif, par les choix alimentaires qu'il fait, poussent la société dans une certaine direction. Et quand je dis la société, ben c'est les producteurs, c'est les distributeurs. Et c'est vraiment ça qu'on voulait aussi mettre en avant, montrer le pouvoir du consommateur, parce que c'est par ses choix qu'il va, bien entendu, orienter le fait de, si j'arrête de manger du cabillaud, ben ça va effectivement montrer aux marailleurs et aux pêcheurs, au-delà de ça, qu'il y a peut-être arrêter d'en pêcher autant qu'on en pêche.
Que ces supermarkets, on peut les trouver aussi bien en Asie, en Europe qu'en Afrique.
Tout à fait. Donc il y a un côté universel, un côté effectivement mondialisé de l'alimentation, mais qui reste quand même avec des identités très fortes selon les pays, parce que dans les supermarchés, on trouve pas du tout la même chose à Shanghai et à Paris, pour le moment, ça c'est vrai. Deuxièmement, là, c'est vrai qu'on a une vision très citadine de la chose, mais le supermarché, c'est loin d'être un modèle universel. C'est un modèle universel dans les grandes villes, on va dire, mais il y a quand même une grosse partie du globe dans laquelle un supermarché n'existe pas. L'alimentation, on la trouve dans les petits commerçants, les petits marchés, les distributeurs qui vont donner les produits. Le fait de manger bio et local, c'est presque ce qu'on fait par défaut dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits dans les campagnes, on mange bio et local, exclusivement, quasiment. Et il y a effectivement... On a plus ou moins accès à ces grandes surfaces qui ont une alimentation, qui proposent une alimentation un peu plus, effectivement, universelle et mondialisée. Mais il y a quand même encore, et on voit quand on voyage, des disparités, et heureusement, des disparités énormes dans nos manières de manger. Et encore une fois, sauf peut-être dans certaines grandes villes. C'est vrai que quand je vais dans un fast-food, que ça soit à New York, que ça soit à Sydney, que ça soit à Paris ou à Londres, grosso modo, c'est la même chose. On est d'accord, à peu de choses près. Mais ce n'est pas le cas d'une alimentation plus terroir, traditionnelle, qui existe encore et qui fait encore la fierté et qui est d'ailleurs de plus en plus patrimonialisée. Il y a vraiment une démarche de préservation mais aussi de valorisation de ces cuisines. Et on le voit bien chaque année à l'UNESCO, le nombre de dossiers qui arrivent sur la table pour rentrer au patrimoine immatériel de l'humanité, qui sont des dossiers alimentaires. Telle recette, tel type de cuisine, telle manière de table, il y a vraiment un souci de plus en plus de valoriser notre culture alimentaire.
Et si on passait par le goût, est-ce que le goût, ça se cultive? Est-ce qu'il est intimement lié à un développement économique aujourd'hui, Christophe Lavelle, dans Le Monde?
Alors le goût, il y a vraiment deux choses. Il y a l'inné et l'acquis, pour simplifier. C'est-à-dire qu'il y a un facteur physiologique et génétique, des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Typiquement, on a une attirance naturelle pour le sucré, mais pas pour l'amer. Ça, c'est ancré dans nos gènes. Pour des raisons d'évolution, le sucre, c'est de l'énergie. La mer, ça peut être poison. Donc, bon, je simplifie un peu, mais on a cette idée-là quand même. Et puis, par-dessus ce côté complètement universel, c'est-à-dire que partout dans le monde, on aime le sucré, mais on n'aime pas la mer, au fur et à mesure, se construit le goût un peu plus développé, où là, le nourrisson, au fur et à mesure, le nourrisson va pas apprendre grand-chose, mais le jeune enfant, par mimétisme, va regarder un peu ce qui se passe, ce qu'on lui propose, ce qu'on va l'encourager à manger ou pas. Et puis après, ça continue tout au long de l'adolescence et plus tard, le fait par exemple la bière, si je donne de la bière juste pour goûter, même une bière sans alcool, on va dire un enfant de 10 ans, c'est horrible pour lui, l'amertume, il va pas aimer ça. Et puis à l'adolescence, un peu plus tard, d'un point de vue social, on se met à partager des bières et puis on finit par aimer ça, apprendre à aimer, ou comme le café. Toutes ces choses-là sont des choses qui se construisent au fur et à mesure et on finit par se construire une alimentation.
On est dans l'identitaire quand on parle d'aliments?
Bien sûr, une grosse partie, comme c'est de la construction sociale, c'est de l'identitaire et effectivement le fait d'aimer un aliment permet aussi de construire un groupe social. Nous sommes les gens qui buvons du café et buvons du vin. Vous êtes les gens qui buvez de la bière et mangez des saucisses. Il y a clairement une construction sociale qui est faite et qui permet de circonscrire les groupes d'individus. Après, bien entendu, tout ça étant totalement poreux, et on peut soi-même d'ailleurs évoluer à un moment de sa vie, on va aimer tel ou tel type d'ingrédients qu'on va moins consommer après pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être des raisons éthiques, qui se rajoutent aussi à notre manière de forger notre goût. Beaucoup de gens se disent je mange pas de viande au départ, c'est pour des raisons éthiques, mais finissent par perdre le goût en disant j'aimais bien ça, mais maintenant ça me dégoûte, j'ai plus envie d'en manger autant, je mange encore un peu de temps en temps, mais moins. Et clairement, on est dans une construction sociale. Il n'y a pas de raison physiologique pour que cette personne aime moins la viande, mais son environnement, la pression sociale, les discours font qu'elle finit par moins aimer ça.
Dans cette exposition, je mange, je suis, on n'a pas parlé des menus, on n'a pas parlé des vaisselles, on n'a pas parlé des livres de cuisine, on n'a pas parlé de la pêche, de notre relation avec la mer, de l'élevage, mais il y a un livre qui remplace à peu près le catalogue. C'est un très beau livre qui est un petit dictionnaire curieux de l'alimentation et qu'on peut trouver au musée, hein, au musée de l'homme.
Tout à fait, à la librairie du musée de l'homme.
Ouais, en attendant de le trouver peut-être dans d'autres librairies. Et ça, c'est un dictionnaire que vous avez conçu à partir effectivement des pièces exposées dans cette expo.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un ouvrage collectif puisqu'on a rassemblé une quarantaine d'auteurs, dont beaucoup avaient contribué à l'exposition, qui sont à 95% des chercheurs du muséum et qui ont chacun écrit une des entrées ou une ou plusieurs entrées de ce mini dictionnaire.
Avec l'art culinaire qui a une place assez importante d'ailleurs, parce que ça reste quand même un musée.
Oui. Oui. Et la cuisine et l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût, telle est la définition de Brillat-Savarin. Et je pense que c'est important de garder ce rappel sur le fait que la cuisine est une activité, bien entendu, essentielle, quotidienne, domestique, mais aussi avec une forte composante artistique.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Élise Leu était à la technique ce matin, Corinne Amar à la coordination et Vincent Abouchard à la réalisation. L'exposition « Je mange, donc je suis » c'est au Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris jusqu'au 1er juin. Merci à Christophe Lavelle, commissaire scientifique de cette exposition, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.
Merci à vous.
Bonne journée. Nous on se retrouve demain, si tout va bien.